This is Radio Free Europe.
Benvenutos en Colombia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Égypte, au Liban, aux États-Unis, trois pays à la une d'ailleurs dans le monde, le journal de l'International de Michael Thébault. Cinéma, Eva Bétan reviendra donc nous parler de la comédie musicale La La Land, 14 nominations aux Oscars. À 18h55, c'est l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde sur les big data appliqués à la société mexicaine. Tout de suite, le Rwanda.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le Rwanda et le génocide des Tutsis par les Hutus en 1994, 800 000 morts en 3 mois seulement, tués artisanalement à la machette. Ce génocide, ses acteurs, ses survivants sont l'objet d'un livre saisissant et écrit d'une plume droite, parfois douloureuse, encore sidérée, par un historien de la guerre et des combats, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Stéphane Audouin-Rouzeau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour ce livre et merci d'être au micro de France Inter. Une initiation, Rwanda 1994-2016, est publiée aux éditions du Seuil. Commençons, si vous le voulez bien, par la fin. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Comme le dit le titre, une initiation, c'est la mienne dont il s'agit. C'est-à-dire, je suis un historien de la Grande Guerre, je suis un historien de l'Europe, je suis un historien classique, pas du tout un africaniste. Et un peu par hasard, pas tout à fait quand même, il y a de ça quelques années, j'ai subi le choc de cette rencontre sur place, rencontre avec le pays, rencontre avec les sites mémoriaux, rencontre avec les victimes, avec les survivants. Et ce choc a été extrêmement profond. C'est un choc intellectuel, c'est un choc affectif, c'est un choc même politique. Et j'ai voulu en fait rendre compte de ce choc, m'en rendre compte à moi-même dans une certaine mesure. Et puis je me suis dit que en rendre compte pour les autres pouvait être un moyen sur ce sujet compliqué, difficile, que les gens mettent à distance. Les gens savent même pas c'est quand, c'est qui a tué qui, à quel moment. Les gens ne le savent pas. C'est un génocide très largement oublié dans la société française. Eh bien, je me suis dit, si on rendre compte de ce choc, c'était dans une certaine mesure prendre par la main le lecteur et l'amener par une porte latérale dans ce sujet très difficile et partager une forme d'initiation avec lui.
Avec cette première question, pourquoi n'avez-vous pas vu le génocide en 1994? C'est une question que vous vous posez à vous-même, que vous vous posez comme chercheur également. Qu'est-ce qui fait que l'événement m'a échappé? Alors que 95, vous le dites, ce qui se passe en Bosnie, ça vous révolte. Pourquoi 94? Vous êtes déjà historien, bientôt professeur des universités. Pourquoi ça vous échappe?
S'il n'y avait pas cette question, il n'y aurait pas ce livre.
Voilà.
Je me suis posé cette question à moi-même, qui est une question plutôt douloureuse. Hein. Quand on est soi-même historien, spécialiste des conflits, qu'on a une quarantaine d'années, on est quand même capable de voir un événement, au moins de le voir. On peut se tromper, mais enfin, on peut quand même voir un événement. Je ne l'ai pas vu. Beaucoup de gens ne l'ont pas vu, mais ça, ce n'est pas une excuse. Je ne l'ai pas vu. Et si je ne l'ai pas vu, c'est parce que je ne voulais pas le voir. Ça m'arrangeait probablement de ne pas le voir. Et pourquoi ça m'arrangeait de ne pas le voir? Et là, il y a, je pense, quelque chose de très difficile à dire, je crois qu'il faut le dire. C'est toute la part du racisme inconscient qu'il y a chez nous. Le racisme, on le stigmatise toujours chez les autres, jamais chez soi-même. C'est curieux. Hein, c'est d'abord chez soi-même qu'on est immédiatement efficace avant de l'être sur et chez les autres. Et je pense qu'il y avait de cela, outre une ignorance complète de ce qu'était l'Afrique des Grands Lacs, bien sûr, enfin, toute une série de composantes qui ont convergé pour que je ne vois pas. Et j'ai mis longtemps à voir. J'ai pas vu tout de suite, et puis j'ai pas vu immédiatement après non plus. Il m'a fallu des rencontres. Une première rencontre avec un rescapé en France, qui était d'ailleurs un professeur de droit absolument éblouissant dans un séminaire. J'ai commencé à entrer dans ce sujet par les gens qui avaient survécu au massacre.
Pour que les choses soient claires, Stéphane Audouin-Rouzeau, quand vous dites racisme, comment pourrait-on formuler exactement la chose? C'est quoi? C'est bon, les Hutus, les Tutsis, de toute façon, ils se haïssent depuis la nuit des temps, ça nous concerne pas, point.
Oui, je crois que c'était au fond, au fond, je pense que quand je dis racisme, je veux dire quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire, voilà, bah il y a une haine interethnique, elle est très ancienne. J'ignorais complètement à quel point elle avait été au fond suscitée, créée, instrumentalisée par le colonisateur. Bon, il y a donc une haine ethnique très ancienne. Ça a abouti à des massacres que j'imaginais plus ou moins mutuels, sans voir qu'il y a bien effectivement des victimes et des bourreaux, et de manière extrêmement claire et nette. contacts. Et donc, ben, au fond, on ne peut rien faire. Mmh. Hein, et
passons à autre chose.
Passons à autre chose, voyons voir autre chose. Et autre chose, je le vois, effectivement. La Bosnie, vous l'avez dit, m'a révolté. Srebrenica, l'année suivante, en juillet 95, m'a révolté. Et m'a révolté l'absence de révolte aussi autour de moi. Le Rwanda, rien. Et qui, le Rwanda, a révolté ? Pas grand monde, en 94.
Pourquoi une initiation ? Vous avez été initié à quoi à travers ce génocide ?
Ah, c'est une question difficile. L'initiation, c'est évidemment une initiation, d'abord, pas au spectacle direct du massacre de masse, mais à sa trace. Et cette trace est extrêmement prégnante hein, au Rwanda, ne serait-ce qu'à travers le discours, à travers la parole hein, des victimes, des rescapés, mais aussi à travers les sites, hein, ces sites mémoriaux qui sont d'une dureté effrayante, à travers les commémorations, qui sont également un moment de confrontation à une souffrance indicible des victimes qui revivent, hein, pour certains d'entre elles, qui revivent dans des crises atroces, hein, qui revivent vraiment les moments du génocide. Alors il y a d'abord ça, il y a cette initiation-là. Pour un chercheur, il y a quelque chose d'autre. Pour un chercheur, il y a quelque chose d'autre. C'est une initiation à une zone, à une zone, oui, un espace du massacre, dans lequel les sciences sociales, historiens, anthropologues, sociologues, philosophes, ont beaucoup de mal à entrer parce qu'ils n'ont peut-être pas la volonté, les outils. Hein, pour y entrer. Et donc, initiation à ce qu'est au fond une sorte d'au-delà de la violence dans le génocide des Tutsis rwandais. Il s'est passé des choses dans ce génocide qui ne se sont passées nulle part ailleurs, en tout cas à cette échelle. Il ne s'agit pas seulement du massacre, il s'agit des formes hein, du massacre. Le massacre des voisins en particulier, hein, la manière dont les voisinages se sont retournés, la manière dont les familles elles-mêmes se sont... une partie de la famille a pu en exterminer une autre, la manière dont des parents ont pu exterminer parfois une partie de leurs propres enfants, enfants d'un premier lit par exemple. Là, ce retournement de la sphère intime est une chose absolument inouï dès lors qu'on en prend conscience.
Qui est Joséphine ?
Il y a quelques personnages, oui, dans ce livre. Joséphine est une paysanne, donc du nord de Kigali, et qui à un moment a fait un long récit à une de mes étudiantes qui était en doctorat avec moi, qui est maintenant une chercheuse confirmée, donc l'auteur d'un très grand livre qui s'appelle Le génocide au village, paru il y a peu de temps au Seuil. Et Joséphine donc est une paysanne. Qui a perdu la totalité de sa famille dans le génocide et qui vit au nord de Kigali, près d'un cimetière, un petit cimetière personnel qui est le cimetière des membres de sa famille et de sa belle-famille. Et cette femme, et c'est là que j'ai compris quelque chose qu'on ne comprend jamais en France, on imagine que les rescapés sont en sécurité. Les rescapés ne sont pas en sécurité. Joséphine a continué à être l'objet. Elle vit au milieu des tueurs, des familles des tueurs de sa famille. Et il y a une pression hein, qui s'exerce sur elle effrayante, une pression pas seulement psychologique, une pression physique. La vache qu'elle avait récupérée, après, vous connaissez peut-être l'importance hein, des vaches donc pour les Rwandais, et en particulier pour les Tutsis. La vache qu'elle avait récupérée a été attaquée par ses voisins, donc machetés, hein, comme les êtres humains avaient été machetés pendant le génocide. Et il y a quelques années, on avait formé le projet, après l'avoir rencontré, de lui offrir une autre vache, ce que l'on a fait. Mais la vache est morte de faim l'année dernière parce que les voisins lui ont interdit l'accès à ses pâturages. Et donc vous voyez ce que c'est. Hein, c'est un feu hein, qui continue à brûler sous la cendre. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait recommencer dans les formes de 94, évidemment, mais qu'il y ait une violence latente, hein, notamment en dehors de Kigali et des grandes villes où les rescapés sont certainement beaucoup plus protégés, mais dans les campagnes isolées, hein, là, que quelque chose continue à se jouer comme cela se jouait déjà en 94, ça me paraît une évidence.
Qui est Émilienne, Stéphane Audouin-Rouzeau ?
Émilienne est une amie dont il est beaucoup question hein, dans ce livre, qui était une qui avait fait des études de psychologie au monde et qui est à l'université de Boutaré, qui s'est mariée juste avant le génocide et qui dont la quasi-totalité de la famille a été massacrée à Mouchoubati, donc une petite ville qui se trouve une petite localité qui se trouve au-dessus hein, du lac Kivu. Cette femme que j'ai rencontrée là-bas, qui m'a paru avoir une personnalité fascinante, nous a fait visiter en 2014, moi-même et un groupe de collègues historiens, anthropologues, que j'avais amené au Rwanda pour le 20e anniversaire du génocide, nous a fait visiter donc sa maison détruite. Car il n'y a pas que les êtres humains qui ont été détruits, et de quelle manière souvent, mais aussi les bâtiments, les maisons, les troupeaux. Et donc sa maison avait été détruite, elle avait cherché à la faire reconstruire après le génocide, après sa propre survie, à deux reprises elle a été détruite, car évidemment personne ne voulait qu'elle se réinstalle sur place. Ça aussi, ça fait partie hein, du génocide qui se poursuit à bas bruit, au moins de manière symbolique. Et donc la visite de cette maison a été absolument bouleversante, parce que Émilienne nous a dit voilà, quand vous allez rentrer en France, vous allez m'oublier, mais moi je ne vous oublierai jamais, parce que grâce à vous, je vais reconstruire une nouvelle fois ma maison. Alors on a été vraiment bouleversés, bien sûr, par ce renversement de la relation entre les Occidentaux, les Français et la rescapée sur place. Et effectivement, 2 ans plus tard, Émilienne avait reconstruit sa maison. Je suis revenu donc l'année dernière, en 2016, pour voir la cérémonie de cette reconstruction. C'est sans doute le seul moment un peu optimiste du livre.
Quand je sais pas comment formuler la question, Stéphane Audouin-Rouzeau, vous dites les rescapés, je ne les rencontre pas, ils nous accueillent. À un moment, la formulation est à peu près celle-là. On voit ce qu'un être humain peut vouloir dire par là, être accueilli par des rescapés. L'historien, cet accueil-là, il le ressent comment et quel effet a-t-il sur son travail?
Cet accueil, évidemment, je pense à, oui, à ces rescapés, à ces groupes de femmes, ces groupes de paroles, justement, de femmes
violées,
mutilées, évidemment, souvent désormais malades, donc, du sida. Cet accueil, effectivement, est bouleversant pour un Français, qui arrive avec tout un bagage avec lui, tout un confort, toute une aisance, toute une sécurité dont les gens n'ont pas idée là-bas. Et ce qui est bouleversant, alors qu'on arrive évidemment dans une position de grande humilité, comment faire autrement, et qu'on dit voilà, merci d'être venu nous voir, merci de nous considérer. Les Rwandais se sont sentis abandonnés en 94, et le fait de revenir, même encore plus de 22 ans plus tard aujourd'hui, le fait de revenir est un signe que on ne peut pas évidemment revenir sur l'abandon de 94, mais au moins on peut revenir maintenant et écouter. Alors cet accueil, si vous voulez, ça rend évidemment un historien comme moi, et ceci est vrai pour, je suppose, toute personne qui prend contact, hein, qui subit cette initiation. Eh bien, ça rend évidemment extraordinairement modeste. Hein, d'un seul coup, on se dit voilà, ce qu'il faut au fond, ce qu'il faut faire, c'est écouter les acteurs sociaux, hein, écouter les gens au lieu de penser par avance, au lieu d'imposer au fond un savoir, un cadre préétabli. S'il y a bien, ça fait partie aussi de l'initiation. Le Rwanda a fait éclater, en ce qui me concerne, les cadres préétablis de pensée, d'interprétation.
Quant aux bourreaux, aux tueurs, aux massacreurs, vous dites je les ai aperçus. Qu'avez-vous aperçu ?
On aperçoit dans ces cas-là, vous le savez, pour reprendre la grande expression de Christopher Browning pour un autre génocide, on aperçoit des hommes ordinaires. On aperçoit des hommes ordinaires faisant des travaux d'intérêt général et... quand on les entend, j'en ai jamais rencontré en face à face, mais quand on entend leurs paroles à travers.
Pourquoi?
Mais parce que quand je suis au Rwanda, je suis accueilli par des rescapés. Et donc quand vous êtes accueilli par des rescapés, sauf sauf exception, il est assez difficile de leur demander hein, de s'entremettre pour aller voir des tueurs. C'est nous, les Occidentaux, qui voulons absolument hein, que rescapés et tueurs se réconcilient. Mais comme me l'a dit une victime, hein, je demande pardon à Dieu de ne pas pouvoir accorder le pardon. Et donc vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Il est assez difficile hein, de rencontrer des tueurs, même si c'est utile, important peut-être d'un point de vue de science sociale, mais moralement, c'est une autre affaire. Et puis en outre, chacun le sait, il n'est pas sûr que ce soit extraordinairement utile, hein, les ressources qu'ont les tueurs pour au fond dissimuler et leurs actes et le système de représentation qui les a amenés au massacre, ces ressources sont considérables. Alors ces hommes ordinaires, il faut néanmoins s'y intéresser parce que bien sûr le secret du génocide, ils en sont porteurs.
Qu'avez-vous appris au Rwanda, Stéphane Audouin-Rouzeau ? Ce sera ma dernière question, qui vous permet de relire en profondeur l'ensemble de vos travaux historiques. Après le Rwanda, comment relisez-vous tout ce que vous avez écrit sur le champ de bataille, sur la guerre, sur la violence, sur le viol ? Qu'avez-vous raté, au fond, dans vos travaux précédents et que le Rwanda vous a permis peut-être de nommer ?
C'est une question douloureuse, peut-être impitoyable. Je pense que ce que j'ai fait auparavant, en essayant de me centrer sur les questions de violence, sur la question des pratiques, sur les questions des acteurs, m'a préparé, sans doute, à accepter un autre sujet comme celui-là. Mais ce sujet a, en quelque sorte, ce nouveau sujet, a démonétisé, dans une certaine mesure, hein, ces violences plus lointaines dans le temps, dont les enjeux civiques, politiques, hein, ne sont pas du tout les mêmes hein, qu'un génocide qui s'est produit il y a si peu de temps, 22 ans, ça n'est rien. Et dans lequel, malheureusement, hein, la France est d'une manière ou d'une autre hein, impliquée. Tout ça, et donc, il y a une sorte de percussion de 25 années de travail, si vous voulez, ou même davantage, une percussion par un objet nouveau. Et c'est de cette percussion, de ce choc aussi, que ce petit livre voudrait essayer de rendre compte.
Ce livre qui commence et qui n'épuise évidemment pas la question parce qu'elle est inépuisable, mais que s'est-il passé ? C'est l'interrogation d'ouverture et aussi de clôture de ce livre. Merci Stéphane Audouin-Rouzeau. Une initiation Rwanda 1994-2016. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter. À suivre le journal de l'International.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde. Bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, direction l'Égypte. C'est encore l'émotion de la discussion avec Stéphane Audouin-Rouzeau. L'Égypte toujours confrontée à la pire crise économique de ces 30 dernières années.
Oui, avec une cure d'austérité hein, sans précédent. Cure censée, vous le savez, permettre de résorber la colossale dette du pays. Coupe dans les subventions à l'électricité, au gaz, au pétrole, instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le secteur économique. En novembre dernier, le gouvernement a même décidé de laisser flotter la livre égyptienne pour faire face à la pénurie de dollars. Résultat, la monnaie nationale a perdu près de 50% de sa valeur en quelques jours. À cela s'ajoutent des réformes drastiques pour, en théorie, remettre l'économie en marche. Mais pour l'instant, la seule chose qui marche et même galope, c'est l'inflation, à près de 20%. Aujourd'hui, et les Égyptiens, dont plus du tiers de la population hein, vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien, doivent composer avec des pénuries de denrées de base telles que le sucre, le riz, plus la hausse fulgurante des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, des médicaments. Bref, vous l'avez compris, quotidien de plus en plus difficile. Au Caire, pour France Inter, François Hume Ferkataji.
À la télévision, sur les panneaux publicitaires ou dans les haut-parleurs du métro, les mêmes messages sont diffusés en boucle. Soyez patients, notre volonté est plus forte que notre crise. Mais devant ce supermarché où des produits alimentaires subventionnés sont habituellement disponibles, cette mère de famille ne cache pas son désespoir.
Les prix sont de plus en plus élevés et au marché, la plupart des produits sont inabordables. Il n'y a pas de sucre, plus de riz, rien. Le beurre est passé de 30 à 80 livres. Et par exemple, ce riz que j'ai avec moi, il est importé, il n'y a plus de riz égyptien disponible.
Et fin novembre, une femme de 30 ans ainsi est menacée de se jeter d'un immeuble de la place Tahrir, assurant simplement ne plus pouvoir nourrir sa famille.
Des scènes de désespoir qui se répètent dans le pays, mais en raison de l'interdiction de manifester et d'un appareil sécuritaire menaçant, la rue reste silencieuse. Pour le président Sisi, ce silence est une victoire et il ne cesse de féliciter les Égyptiens pour, je cite, leur capacité à affronter la crise. Il promet que d'ici 6 mois, la situation va s'arranger. Pas convaincu, plusieurs syndicats et partis se sont récemment regroupés pour un changement de politique économique à travers la campagne « Nous voulons vivre ». Khaled El-Bashi est membre du bureau du syndicat des journalistes et participe à cette coalition.
Nos problèmes résultent d'une série de décisions catastrophiques. Imaginez, les gens se réveillent un matin et leur salaire a perdu 50% de sa valeur. En une seule décision, Sisi a pratiquement doublé le nombre de pauvres dans ce pays et personne ne dit rien. La peur de l'État fait taire les gens. Au moment où l'on réduit les taxes pour les très riches ou les grandes entreprises, on a une politique qui fait payer aux plus pauvres tous les problèmes du pays.
Alors reste l'humour. Sur Internet, les vidéos satiriques se multiplient où l'on voit des dealers de drogue se reconvertir dans le trafic de sucre, désormais introuvable dans les supermarchés. Mais un sujet reste particulièrement sensible, la hausse du prix de plus de 3000 médicaments. Devant l'hôpital Asser Al-Aini du Caire, Khaled Mouftar, originaire de l'oasis du Fayoum, vient d'emmener son père aux urgences.
Mon père est aux urgences. À l'hôpital, ils n'ont pas les médicaments qu'il lui faut. Je suis allé dans toutes les pharmacies du quartier pour en trouver, mais rien. Je suis allé visiter des dizaines de pharmacies. Il n'y en a pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un simple fermier, je viens d'un village, je suis très pauvre et je n'ai pas les moyens.
Le gouvernement a passé un accord avec les laboratoires pharmaceutiques pour augmenter officiellement les prix de 15 à 20%. Les pharmaciens, eux, évoquent des augmentations de 50% dans les faits. Mi-janvier, ils se sont regroupés au siège de leur syndicat pour protester. Annie Evgeny, pharmacien dans un village de la province de Beheri, est l'un d'entre eux.
Quand les clients viennent dans la pharmacie, ils m'accusent d'augmenter les prix, mais je ne peux rien faire. Et aujourd'hui, je me sens mal. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec les gens. Ces gens sont mes frères, mes sœurs, mes pères. Et c'est pour ça que je veux lever la voix contre le ministère.
Et en avril prochain, Nicolas, l'Égypte recevra la deuxième tranche des 12 milliards de dollars prêtés par le FMI pour libérer le potentiel économique du pays, selon Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui se dit convaincue que ces réformes économiques difficiles sont nécessaires et vont permettre, je cite toujours, d'offrir des gains de compétitivité au pays, favoriser les exportations et même le retour des touristes. Mais vous l'avez deviné, on en est très loin.
Jusqu'à présent, un tiers du budget de l'État était consacré aux subventions étatiques. Les subventions à l'électricité, au gaz et au pétrole ont donc été partiellement coupées, créant une hausse de prix fulgurante. Timothy Caldas est chercheur au Tahrir Middle East Institute.
Toutes les mesures d'austérité, c'est de l'inflation et cela met une pression énorme sur la classe ouvrière en Égypte. Les prix vont augmenter de façon dramatique. L'autre côté du plan, c'est d'augmenter les subventions pour la nourriture, augmenter les dépenses gouvernementales pour la santé, augmenter des dépenses dans l'éducation, favoriser les transferts de cash aux plus pauvres ou aux retraités. Si la seconde partie du plan est mise en place avec la même volonté que la première, alors l'Égypte peut s'en sortir. Mais c'est un si. Un grand si. Parce qu'en pratique, la seconde partie demande l'existence d'une grande institution qui n'a pas été développée. Pourtant, les gens ont besoin de cette protection parce que dans le cas contraire, cela va être pratiquement impossible pour certaines personnes de survivre.
Face à la gronde qui couve dans le pays, le Premier ministre vient d'annoncer plusieurs mesures afin de rendre abordables des produits de première nécessité comme le riz ou le sucre. Le pouvoir devra encore pendant de longues semaines jouer un jeu d'équilibriste pour restaurer l'économie du pays tout en évitant l'explosion sociale.
Reportage au Caire, signé François Hume, Ferkataji. Et la crise économique, Nicolas, les produits de base trop chers, les coupures d'électricité, le malaise social et les clivages politiques, eh bien c'est aussi ce que vit encore et toujours le Liban, et c'est même d'ailleurs en ces termes que L'Orient le Jour décrivait hier la situation du pays, le grand quotidien libanais qui s'est donc lancé un défi, trouver désormais chaque lundi une bonne nouvelle à annoncer à ses lecteurs. Et la première hier a été, figurez-vous, l'arrivée des vélos en libre service à Beyrouth. Bah oui, Paris avait ses Vélib, New York ses City Bikes, Montréal ses Bixi, et bien maintenant Beyrouth a ses Bike for All. Fort le chiffre. Une première station test avec 5 vélos avait été installée la semaine dernière en plein centre-ville. Succès immédiat. Une seconde station avec 100 vélos vient d'être inaugurée. 6 autres seront opérationnels dans les prochains jours. Et derrière le projet, un homme, Jawad Zbeiti. Son ambition, promouvoir la culture du vélo au Liban. Il avait déjà fondé Beyrouth by Bike en 97, compagnie de location de vélos particuliers. C'est lui aussi qui avait lancé le grand rassemblement du littoral dans la capitale libanaise. 70 000 cyclistes réunis l'an dernier. Les gens à vélo dégagent toujours des ondes positives, dit-il, contrairement à ceux au volant de leur voiture toujours énervés. L'homme d'affaires mise sur 5 000 bicyclettes, 25 stations à partir de mai prochain. Restera un petit détail à régler. Il n'y a pour l'heure que 3 pistes cyclables à Beyrouth.
Allez, rien à voir, Michael. On file maintenant à New York, 5 jours après l'investiture de Donald Trump.
Et pour vous donner le ton d'entrée de jeu, écoutez ce que dit cet élu new-yorkais.
Dans 4 ans, la seule chose positive qu'on pourra attribuer à Trump, c'est d'avoir inspiré toute une génération d'activistes.
Et ses propos, ce sont donc ceux d'un élu local de Brooklyn, célébrissime quartier de New York, où nous vous retrouvons, Charlotte Alix, pour précisément parler de ces nouveaux activistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'élection de Trump a poussé des centaines de milliers de personnes à entrer littéralement en résistance. Ça, on l'a bien vu samedi avec près de 2 millions de personnes dans les rues des États-Unis. Mais au-delà de ces manifestations, Charlotte, il y a donc aussi des initiatives citoyennes qui ont éclos partout dans le pays, et notamment ici à New York.
Oui, et pour en parler, je voudrais vous présenter Julie Torres-Moskowitz. C'est une architecte de 45 ans. Elle se décrit comme progressiste et depuis l'élection, eh bien, elle est impliquée dans tout un tas de groupes d'action. Je l'ai suivie la semaine dernière. Je voudrais d'abord que vous l'entendiez.
Depuis novembre, mon quotidien consiste à aller vers les gens, à m'instruire, à entrer en contact avec d'anciens amis, de nouvelles personnes que je rencontre dans les meetings, des membres de ma famille qui ne pensent pas forcément comme moi, mais avec qui je trouve intéressant de me confronter. J'ai l'impression de passer par une expérience cathartique avec la population en général. Et alors que les jours passent, il y a de la colère, oui, mais aussi du collectif et de l'optimisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour réparer le Parti démocrate? Comment agir? Mais tout simplement de savoir que tous ces gens si différents sont dans l'action, ça m'apporte aussi de l'espoir.
Alors, ce qu'on entend dans ce témoignage, c'est que cette mobilisation en est encore à ses prémices. Mais ce qui m'a frappé, c'est la résilience. Ces Américains-là, les progressistes comme Julie, ont retroussé leurs manches et plutôt que de se laisser abattre, ils vont de l'avant.
Justement, Charlotte, en marge des énormes manifs, quelle forme prend cette nouvelle mobilisation? Comment ça se passe en coulisses?
Eh bien, par exemple, il se passe ça.
Combien d'entre vous a appelé un de ces élus? Waouh, regardez ça, quasiment tout le monde dans cette salle.
La personne que vous entendez, c'est le conseiller municipal Brad Lender, qui représente un quartier assez huppé de Brooklyn. Quelques jours après l'élection, il a invité ses administrés à se réunir dans une synagogue du quartier pour discuter de l'élection et pour voir ce qui pouvait être fait. Un millier de personnes ont répondu à l'appel.
On a réalisé qu'il y avait un vrai désir de s'engager dans l'action, pas seulement de pleurer et d'être en deuil. Bien sûr, il y a des quartiers où les gens sont plus directement menacés, dans les quartiers d'immigrés ou musulmans. Mais ici, je crois que les gens ont tout simplement peur pour leur pays.
Alors ce soir-là, c'était leur quatrième soirée d'action. Concrètement, ça veut dire que les gens se répartissent en groupes de travail. Certains, par exemple, réfléchissent aux actions à mener pour sauver Obamacare ou pour réformer le système électoral. D'autres, comme ici, aux moyens de lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme.
On est inquiet face à la montée des crimes motivés par la haine et face au risque que cela se banalise, que les gens deviennent insensibles. Donc notre but est simple, nous n'allons pas rester silencieux face à la haine. Donc quand un de ces crimes survient, nous allons tenir une veillée pour attirer l'attention.
Ben Wyatt, comme Julie et comme la majorité des participants ce soir-là, n'est pas un militant professionnel, mais tous, comme en convient Lisa, tous sont en train de devenir des activistes.
J'ai commencé à me projeter dans ce mot. Je suis dans un des comités, donc ça fait partie intégrante de ma vie quotidienne.
Et c'est donc vraiment un mouvement grassroots, hein, comme on dit chez vous, c'est-à-dire qui vient d'en bas, qui vient des citoyens, et ça rappelle de l'autre côté de l'échiquier politique, ce qu'on avait vu en 2009 avec l'émergence du Tea Party contre l'élection d'Obama.
Oui, il y a de ça, hein. On retrouve des caractéristiques communes et avant tout ce côté spontané et local, ultra-local même, parfois de toutes petites réunions, par exemple ici, chez Julie, qui avait invité chez elle des amis et des voisins la semaine dernière, pour réfléchir à des slogans et confectionner des pancartes en vue de la grande marche de samedi.
Le côté positif de cette élection, c'est que ça va nous forcer à bouger nos fesses. Pour beaucoup d'entre nous, cette élection nous a réveillés. Parfois, il faut un cauchemar pour se bouger.
Cette élection nous a montré qu'on était peut-être trop confortablement installés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'on se batte pour ce en quoi nous croyons.
Alors, le Tea Party avait réussi à s'immiscer dans le Parti républicain jusqu'à en faire bouger les lignes. Est-ce que c'est ce qui va se passer ici avec le Parti démocrate ? En tout cas, il est intéressant de voir que ces militants ont commencé à user des mêmes tactiques, notamment en faisant pression sur leurs élus pour qu'ils s'opposent férocement à la nouvelle administration.
Et Charlotte Alix en direct de Brooklyn à New York. Merci beaucoup Charlotte et Nicolas. À demain.
À demain, Michael.
Désolée de vous interrompre, mais on a une réception dans une demi-heure, alors allez tous vous habiller.
Et voilà.
Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Un jour,
good morning,
dans le monde, sur France Inter.
Eva Béton, bonsoir.
Bonsoir.
Heureux de vous retrouver. Cinéma, on parle de La La Land ce soir et ses 14 nominations aux Oscars.
Vraiment, on en parle.
Si vous voulez, allez.
Je crains à force d'en parler que les gens n'aient plus envie de le voir et d'arriver à saturation. Alors, je vais rendre service à La La Land. Je veux vous dire ses défauts, car le film a aussi des défauts. Oui, oui, oui. Je cherche. Il fonctionne par bouffée de plaisir. Ça, c'est formidable. Et en même temps, je dirais, il manque peut-être d'un fond qui resterait. On est sur les archétypes, le jeune couple d'artistes fauchés. Est-ce qu'ils vont réussir? Ou est-ce que s'ils la réussissent, ça les séparera, etc. Je dirais qu'il n'y a pas le fond ou le côté mythique qu'il pouvait y avoir dans La Demoiselle de Rochefort. Ceci étant, une fois qu'on a dit cela, il y a une scène d'ouverture extraordinaire. Dans les autres défauts, il n'y en a qu'une de scène de groupe. Mais cette scène d'ouverture, ça, c'est une des principales qualités, il faudrait pouvoir se la passer tous les matins. Et vous avez une telle forme quand vous sortez que vous êtes dans une forme d'enfer toute la journée. Je dirais que la qualité primordiale de Damien Chazelle, c'est que il vient du cinéma indépendant. Et lui, il dit pas « donnez-moi mon strapontin à Hollywood », il dit « je veux faire du cinéma, du cinoche, du vrai, du populaire, comme vous le faites plus peut-être, mais à ma manière, il le fait encore comme un film de potache, le type qui écrit la musique, c'est son copain de fac. Hein. » Il a ça, et en même temps, il a ce désir de cinéma. Et moi, c'est de ça dont j'ai voulu parler avec lui.
C'est vrai que je crois dans le cinéma comme un art populaire. J'adore l'idée romantique d'aller au cinéma, de voir quelque chose sur le grand écran, pas sur un portable, avec du monde. C'est-à-dire que c'est une expérience collective. Et donc, pour faire ça, il faut donner une expérience aux spectateurs, une expérience intense, pas toujours plaisante, mais une vraie expérience. C'est ça qui est important pour moi. Et aussi la passion. Il faut exprimer la passion sur l'écran.
Je voudrais que vous nous parliez de la scène d'ouverture. Ça rend joyeux. Est-ce que vous l'avez filmée pour qu'elle rende joyeux ?
Oui, bien sûr. Je ne savais pas si ça allait marcher, mais c'était l'enjeu, c'était le but. J'aimais bien aussi l'idée que je pense qu'aujourd'hui, dans le cinéma de Hollywood, la plupart des fois, s'il y a des grandes séquences où c'est important que le caméra fait des choses assez fous, virtuoses, c'est normalement aujourd'hui des scènes d'action ou des scènes violentes ou des scènes de souffrance, on dirait... pas des scènes comme The Revenant ou Saving Private Ryan ou Gravity. Ou, je pense au cinéma aujourd'hui, c'est peut-être l'exemple de Kubrick, le cinéma vraiment grandiose et virtuose et fait pour le grand écran. Et ça, je trouvais intéressant et peut-être assez fresh, assez nouveau, de faire une séquence comme ça, mais en parlant de la joie.
This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
Il est formidable.
Oui, le jeune homme est structuré. Hein. Et on peut lui souhaiter, ce qu'on peut lui souhaiter de mieux, c'est de faire une carrière à la Soderbergh, qui a commencé très tôt, qui a eu la Palme d'Or à 28 ans et qui a fait plein de choses très différentes. C'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux.
Eva Béton, merci. La La Land, donc, qui est un film inter.
Oui, tout à fait. Françoise Bonnet a beaucoup de goût.
18h53.
Elle s'occupe des parrainages.
Oui. Frank Sinatra.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can
Allez, à 18h, bientôt 55 minutes, l'édito de Vincent Giret.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez Vincent ce soir au Mexique où des chercheurs en sciences sociales ont réalisé une expérience inédite sur les riches.
Et oui Nicolas, c'est une expérience assez incroyable que je vous raconte ce soir qui tente de répondre finalement aux questions suivantes. Comment se comportent vraiment les riches dans la mondialisation d'aujourd'hui? Quel est leur comportement en société? Quelles interactions par exemple ont-ils avec les autres groupes sociaux? Vivent-ils vraiment coupés des autres, un peu comme une tribu, ou acceptent-ils de se mélanger, de faire société, comme disent les sociologues? Et une expérience donc inédite a été menée à la fois par des chercheurs français du CNRS, de l'ENS Lyon, de l'INRIA, des universitaires argentins de Buenos Aires et une entreprise spécialisée dans le big data, les mégadonnées nommée Grand Data Labs. Et ces chercheurs donc ont eu accès à une mine d'or, des millions de données rares, sensibles, en provenance du Mexique. Il s'agit de millions d'informations issues de téléphones portables, ainsi que de relevés, de cartes de crédit. Autant de données qui vont permettre de construire un gigantesque réseau économico-social. Et avec ce réseau, les chercheurs vont analyser pour la première fois à cette échelle et avec ce degré de détail, la stratification en classe sociale et les interactions entre ces dernières.
Alors, qu'on comprenne bien Vincent, dites-nous ce que contiennent exactement ces données.
Alors, il y a un premier fichier, Nicolas, qui est constitué de connexions mobiles et de SMS d'utilisateurs. Il ne s'agit pas du contenu des conversations, bien sûr, mais des dates, des heures, des durées de connexion et de la localisation. Le second fichier liste, lui, les transactions bancaires de quelques 6 millions de personnes, ainsi que leur âge et leur sexe. Bien sûr, toutes les précautions ont été prises, il s'agit de fichiers anonymisés. Quand toutes ces données ont été passées dans ces machines informatiques surpuissantes, les chercheurs ont d'abord mis au jour les grandes proportions. De grandes proportions au Mexique, donc 20% de la population capte ainsi les trois quarts de la richesse. Les chercheurs ont ensuite déterminé 9 groupes sociaux classés en fonction de leurs dépenses mensuelles, 3 500 $ par mois pour les plus riches, contre 500 $ pour les plus pauvres. Et en croisant les deux fichiers, celui des téléphones et celui des cartes bancaires, ils ont pu mesurer les interactions entre chaque groupe social. Et bien résultat, les riches sont la catégorie la plus fermée socialement, j'allais dire la plus verrouillée, la catégorie qui entretient le plus de connexions avec ses semblables. Un Mexicain issu de la classe moyenne a des relations sociales beaucoup plus diversifiées dans la société. Les riches, eux, vivent et commercent entre eux comme aucune autre catégorie sociale. On pourrait même dire que les riches ont fait sécession, en quelque sorte, de la société. Et ce qui vaut pour le Mexique vaut à l'évidence pour de nombreux pays.
Alors qu'en disent, Vincent, les autres chercheurs en sciences sociales?
Alors le journaliste du Monde, David Larousserie, qui raconte cette expérience inédite, a interrogé d'autres chercheurs. Et si le résultat ne les a pas vraiment surpris, on savait déjà que le capital va au capital. En revanche, tous sont sidérés par la puissance des outils du Big Data qui permettent de mesurer des stratifications, des attitudes sociales avec une précision, une rigueur totale. totalement inédite. Cette expérience montre que le comportement des sociétés et des groupes sociaux qui les composent peuvent être enfin décrits, codifiés. Et c'est assez magique, comme si la société devenait soudain lisible à elle-même. Cela permet de mesurer les degrés de cohésion sociale ou les forces centrifuges qui travaillent les sociétés. Voilà qui pourrait constituer un outil formidable pour piloter des politiques publiques intelligentes, à l'aide de la fiscalité, par exemple, de l'aménagement du territoire, du logement, des transformations urbaines. Voilà donc une application concrète et passionnante d'un travail de recherche pionnier qui devrait faire école. Les politiques ne devraient pas tarder à s'en saisir.
Passionnant, Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur la fermeture désormais programmée de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le conseil d'administration a voté pour, avec visiblement une énorme pression de l'État. La fermeture de Fessenheim était en effet une promesse de campagne de François Hollande. Alors est-ce là la première marche vers une sortie progressive du nucléaire? Et si oui, à quel coût financier, humain, technique? Intervenez. Vos questions dans une vingtaine de minutes au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal à suivre, Sébastien Paour.